Vous écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9. Pour cette édition, je reçois Gilles Amalvi. Gilles Amalvi qui est poète, écrivain, mais pas seulement. Bonjour.
Bonjour.
Gilles Amalvi, vous avez proposé des livres tels que Une fable humaine, High Boom, aux éditions du Quaternier, c'est ça, hein ?
Quaternier, oui.
Quaternier, pardon. Mmh. Vous êtes conférencier par ailleurs au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Vous avez collaboré au Festival des Rencontres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis ainsi que le Musée de la Danse de Rennes. Vous travaillez au greffe entre texte, voix et matière sonore. Vous avez produit des performances telles qu'Orphée, Robots de combat, Cranox, qui est un feuilleton radiophonique, me semble-t-il, et Radio Épiméthée, c'est bien ça. Pour commencer, donc, vous travaillez, votre travail oscille entre l'écriture poétique, le travail des sons, la diffusion et l'écoute radiophonique. Est-ce que vous pourriez justement nous parler un peu de votre démarche artistique ? Qu'est-ce que vous creusez comme sillon artistique ? Qu'est-ce qui vous anime ?
De manière générale, c'est vrai que au départ, moi, ma pratique, on va dire, de base, mon cœur de l'endroit où je travaille, c'est vraiment l'écriture. Après, c'est vrai que j'ai énormément d'activités qui se sont développées, mais vraiment, je dirais à partir de l'écriture comme vraiment l'endroit où ça travaille en quelque sorte. Mmh. Et le travail sur le son, vraiment ce sillon du son, je crois qu'au départ, c'était d'abord une sorte de vieux fantasme, un peu fantasme auquel se projettent tes chansons n'est pas complètement étranger. Je pense que quelque chose de l'ordre de ce rapport à la musique et au son qui a toujours été assez présent, sans que ça s'accompagne d'une pratique. Donc c'est dans ce sens-là que c'était un peu fantasmatique. Et à un moment, j'ai eu envie de ce premier livre qui s'appelle Une fable humaine, de lui donner corps par des voix. Il y a eu vraiment ça a été une série de circonstances. Une amie qui montait un petit festival dans son village natal et qui m'a proposé de nous accueillir en résidence pour faire une sorte de laboratoire autour de ce texte. Du coup, pour moi, ça a été un peu l'occasion de découvrir le montage sonore. Alors, c'était très foutraque, c'est un projet donc Radio Épiméthée qui est vraiment mon premier projet sonore, donc ça part un peu dans tous les sens. Je m'amuse à faire des bidouilles avec des sons parfaitement improbables, avec des versions en son MIDI de chansons. Enfin bref, c'était une sorte de truc un peu baroque, un peu dans une esthétique du trop, et qui était un travail à deux voix avec ma voix et celle d'un comédien, Fabrice Burlet. Mais je pense que c'est vraiment ce projet qui m'a donné envie, en tout cas, de au départ, vraiment, le travail du son, c'était que du son informatique, du montage informatique. D'aller creuser aussi du côté de l'acoustique, d'aller creuser du côté des cassettes, du côté des instruments. Donc j'ai mis en place comme ça une sorte de petit vocabulaire sonore un peu minimal de quelqu'un qui est complètement autodidacte dans ce domaine, donc forcément qui découvre au fur et à mesure. Et puis après, la découverte de la prise de son. Enfin, il y a plein de choses que j'ai appris au fur et à mesure en répondant chaque fois à une question posée par l'écriture. C'est toujours...
Ce que vous dites, c'est que finalement, le travail d'écriture de littérature et de création, d'écriture en poésie notamment, est indissociable dans votre travail de la mise en voix et ses enregistrements ainsi que ses performances en public, c'est bien ça ?
Bah ça l'est devenu, en fait, oui. Ouais. C'est vraiment devenu indissociable dans le sens où tous les textes que j'écris à un moment vient se poser la question de savoir quel type de voix et quel type de son pourrait venir entrer en confrontation. Parce que là encore, dès Radio Épiméthée, ce qui m'a intéressé, c'était pas tant créer un paysage sonore qui accompagne ou qui habille le texte, mais vraiment trouver un matériau sonore qui vienne l'empêcher, qui vienne un peu le lacérer, qui viennent donc quand je dis le mot performance, c'est vraiment des lectures où je suis à la fois avec l'objet micro et puis autour de moi tout un tas de l'ordinateur, des instruments où je manipule plein de choses en direct tout en parlant. Donc il y a même dans mon corps une espèce de mise en scène d'un truc un peu comme orchestre où je fais à la fois plusieurs choses tout en essayant de maintenir la piste du texte lui-même. Donc c'est vraiment dans ce rapport de confrontation. Et les textes ont une part rythmique, musicale très importante. Et ensuite, c'est comment est-ce que le son, la musique, la voix vont à la fois venir révéler cette part rythmique et en même temps l'empêcher.
Qu'est-ce que vous creusez en matière d'écriture, justement ? Vous disiez au départ que les projets prenaient naissance aussi dans l'écriture. Qu'est-ce que vous allez chercher ? Qu'est-ce que vous abordez ?
C'est vrai que je continue à me définir plutôt comme poète, même si c'est une définition qui aujourd'hui est soumise à plein de doutes, de questions. Qu'est-ce que c'est encore que la poésie aujourd'hui ? Et puis quel est son mode d'action, son actualité, son écoute aussi, parce que c'est vrai que c'est une forme assez peu connue et qui, depuis quand même bien 15 ans, continue à être active par le son, beaucoup par la voix, avec énormément de gens, je ne vais pas tous les citer, mais comme Charles Penquin, par exemple, qui ont redonné une sorte d'actualité à la poésie en allant au contact vraiment en utilisant leur voix comme un véhicule pour sortir un peu du bouquin.
Les lectures sont très en vogue aussi dans le monde de la poésie,
voilà. C'est ça. Hein, mais je pense que ça correspondait à un désir de sortir un peu de la poésie, de son enclave et puis de ce mot en fait qui plane comme une sorte de, avec sa grande histoire, là où il y a aujourd'hui une actualité de la poésie. C'est vrai que le son a été aussi du coup un endroit où je pouvais, quand je parlais de Radio Epiméthée, de mon truc un peu baroque, c'était cracra, c'était... Et j'aime bien aussi aller mettre ça dans ma définition de la poésie, quelque chose qui soit pas du tout de l'ordre d'une pratique éthérée, mais au contraire quelque chose d'un peu crade, enfin qui grince, qui
expérimental,
mais vraiment dans le sens que l'expérimental peut aussi avoir une nuance un peu un télo, mais là c'est aussi quelque chose de très matérialiste du coup. Donc mes deux premiers textes, Une fable humaine et Aïe Boum, c'est des textes qui sont très travaillés par la question de la fiction, parce que je suis plus un lecteur de fiction qu'un lecteur de poésie, enfin les deux, mais du coup mes influences sont vraiment un peu au carrefour de ces deux tendances, et j'ai tendance à dire souvent que mes poèmes sont des romans frustrés, c'est-à-dire que en général mes livres commencent comme une tentative d'écrire un roman de science-fiction, un roman policier, un roman... Et puis ça finit toujours par échouer, parce qu'en fait les codes du roman, c'est pas tant qu'ils m'échappent, mais en fait ils finissent par... leur artificialité finit par me décourager. Et c'est de la déconstruction des structures, de ce que j'ai mis en place en tant que roman, que le poème émerge en tant que récupération d'énoncés... Donc voilà, ces deux premiers textes, Une fable humaine et Aïe Boum, sont beaucoup sur ce versant. Il y en a un troisième, Cranax, qui n'est pas encore publié, mais qui va bientôt l'être, qui travaille aussi un peu au bord de cette question de la fiction. Et puis après ça, à partir des poèmes de Clint Eastwood, il y a vraiment quelque chose qui vient se déplacer, un peu comme une sorte de poésie au deuxième degré. Et là, actuellement, les projets sur lesquels je travaille dans le domaine de l'écriture, et tes chansons en fait partie aussi. C'est presque une volonté, je pense que c'est pour ça que tes chansons s'est déplacé d'un projet poétique personnel vers une pratique qui se rapproche du documentaire, enfin d'aller faire une collecte de paroles collectives.
Ouais. Alors venons-en justement au projet tes chansons, qui est un projet que vous menez, que vous allez mener, mais que vous avez déjà initié, dont on aura peut-être aussi sur l'antenne Radio Univers quelques restitutions, vous pourrez nous faire écouter. Est-ce que vous pourriez justement nous parler de ce projet tes chansons, qui est en partenariat, me semble-t-il, avec La Criée de Rennes,
c'est ça,
qui est le centre d'art contemporain de Rennes. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce projet ?
Du coup, juste pour raccrocher le wagon, donc je disais que c'est vrai qu'actuellement je travaille plutôt sur des projets qui sont un peu plus éloignés du roman pour se rapprocher de quelque chose, d'une pratique qui serait plus à la fois documentaire, peut-être plus réaliste et pas du tout le bon terme, mais quelque chose qui serait plus proche d'une dimension plus concrète de la langue. Et du coup, tes chansons, au départ, voilà, c'était un texte que j'ai écrit, puis mis en musique, et dont j'ai fait une lecture à La Criée. En fait, il se trouve que La Criée accueille un festival qui s'appelle Autre Mesure, festival de musique contemporaine plutôt, et qui avait fait un après-midi dédié au rapport entre musique et son. Moi, j'ai fait cette lecture, qui était une lecture où dans le son, je faisais une espèce de mélange de toutes les musiques qui me hantent, en quelque sorte. Donc je lisais ce texte qui est une sorte de méthode de construction de chansons, pour que chacun puisse se fabriquer sa propre chanson, en quelque sorte, qui était mélangée avec une espèce de medley de musiques qui se mélangeaient les unes les autres. Et suite à ça, je me suis dit, tiens, mais ce serait intéressant, cette question qui est très personnelle, au fond, si j'allais la poser à d'autres personnes. C'est quoi, vous, votre rapport aux chansons? Il y a un côté avec la musique, et particulièrement avec les chansons. Moi, il y a un exemple que je cite souvent, c'est j'avais une prof à l'université qui avait suivi les séminaires de Gilles Deleuze à Vincennes. Gilles Deleuze ayant travaillé sur cette question de la ritournelle, et visiblement la question de la ritournelle, telle qu'il l'a formalisée dans ses concepts philosophiques, elle répondait directement à une question très personnelle, puisqu'elle nous racontait que Deleuze, en plein milieu de son cours sur la ritournelle, s'était arrêté et s'était mis à faire « Ah, arrête, Piaf, arrête !» Et sans doute qu'il avait comme ça une chanson, peut-être « Pas d'âme » ou une autre chanson de Piaf qui lui tournait en boucle dans la tête et qui l'empêchait de penser. Voilà, donc ça c'était un peu cet endroit très personnel, comment le sortir de ma tête et aller voir comment peut-être n'importe qui, vous, a un rapport singulier avec cette question des chansons, un rapport qui peut être intime, un rapport qui peut être lié aux souvenirs, souvent très fortement. On a souvent des chansons qui sont liées à un moment précis de la vie. Et aussi, est-ce que finalement cet univers qui est commun, parce que les chansons, personne n'a une chanson qui serait la sienne à soi seule, c'est souvent des objets qui sont communs. C'est-à-dire que, j'en sais rien, moi, une chanson de Brassens, par exemple, elle est à moi, elle a construit une sorte de nouage entre ma subjectivité et ses paroles et cette mélodie. Et en même temps, quelqu'un d'autre aura noué son propre rapport avec cette chanson, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est cet endroit du plus intime et du plus collectif qui m'intéressait.
Quel est le dispositif, justement, technique, on va dire, hein, qui va vous permettre justement de collecter ces imaginaires, ces autour des chansons, dans les rues de Rennes aussi, ouais. c'est bien ça.
Donc il y avait ce texte et chansons, et puis là, c'est venu en fait croiser, d'une part, le fait que en tant qu'écrivain, j'ai de plus en plus de mal à travailler chez moi ou dans un bureau, enfin j'ai de plus en plus besoin d'être dehors en fait, donc il y avait aussi une espèce de vieux truc dans ma tête, dans un coin de ma tête, d'avoir une sorte de bureau portatif, de pouvoir aller travailler finalement, aller écrire n'importe où, sur un terrain vague, sur une place, dans la rue, j'en sais rien. Et puis il y a vraiment ce branchement qui s'est fait entre voilà, le projet ethnomusicologique de Alain Lomax, qui a été de, je ne sais plus exactement, fin des années 30, début années 40 peut-être, de missionné par la Bibliothèque du Congrès américain, d'aller enregistrer les musiques vernaculaires américaines. Donc comme ça, il est allé sur les routes pour enregistrer des musiques qui n'étaient pas, qui avaient une tradition qui était orale et... qui n'était pas enregistré. Donc voilà, j'ai essayé de croiser un peu ces différents endroits et je me suis dit, bah voilà, je vais essayer de concevoir un vélo avec un bureau qui puisse en même temps faire studio de radio où je puisse m'arrêter dans la rue et aller du coup installer mon petit studio de radio à chaque coin de rue pour poser la question directement aux gens de ce rapport aux chansons.
Pour imager pour les auditeurs, hein, c'est ça.
Mais une petite carriole, en fait, un chariot qui se déplie, où on peut sortir voilà, le matériel radiophonique de base, quelques micros, des tabourets, une petite table, et puis on s'installe. Il y a un toit également pour se prémunir du temps rennais. Donc ça, on va voir un peu, ça va être un peu les tests que je vais faire dans les jours qui viennent sur est-ce que ça nous protège ou pas, comment ça marche. Mais du coup, l'objet est quasiment terminé, donc on va pouvoir le faire des essais bientôt.
Gilles Amalvi, merci pour donc cet entretien. On aura l'occasion justement de retrouver la suite et de ces productions sonores, de cette collecte dans les semaines à venir, donc sur nos ondes. Merci donc pour cet entretien dans Résonance.
Merci beaucoup. Hop.